1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.
Martin Luther et Jean-Sébastien Bach. D'emblée, ces deux noms réunis évoquent la place de choix de la musique et du chant dans la liturgie à la gloire de Dieu et donc dans leur vie même à eux deux. Deux siècles séparent ces deux hommes et pourtant, tant de choses les réunissent, sur le plan théologique comme sur le plan musical. Sœur Gabrielle, vous êtes diaconesse de Ruilly et depuis de nombreuses années, vous conduisez des retraites et des temps de méditation dans l'année liturgique sur des cantates de Bach. Et par ailleurs, votre enfance allemande vous a introduite à l'univers luthérien des cantates. Alors, est-ce que c'est vraiment avec la réforme que la célébration en assemblée a fait place au chant, Sœur Gabrielle?
Je crois que avec la réforme, le chant a pris une autre place. Il n'était plus seulement peut-être l'ornementation d'une célébration, mais il est devenu la part des fidèles qui pouvaient exprimer leur foi, leur louange, leur prière, mais aussi par les chants, ils pouvaient faire l'expérience de tout un catéchisme.
Pendant le culte.
Pendant le culte.
Donc c'était en fait le chant de l'assemblée.
C'était le chant de l'assemblée.
Et il n'était pas là pour combler un silence qui gênerait tout le monde comme aujourd'hui, mais il avait une part entière.
Martin Luther, pour permettre aux fidèles d'exprimer leur foi pendant la célébration, il a traduit des hymnes latines en allemand.
Parce qu'on chantait en latin.
Tout était en latin et la plupart des fidèles ne comprenaient pas ce qui se passait. Et donc Luther a lui-même créé des chants, musique et texte.
En allemand.
En allemand. Et c'était souvent des chants avec 10, 12, voire 15 strophes. C'était de véritables catéchismes.
C'est-à-dire qu'il y avait un aspect pédagogique.
Un aspect pédagogique, effectivement.
Théologique.
Théologique. Il y avait, par exemple, il y avait le credo que Luther a traduit en allemand et qui se chantait.
Voilà, donc il a écrit un certain nombre de cantiques en plus de ces hymnes latines traduites. Sœur Gabrielle ?
En tout, on a une bonne trentaine de chants de Luther qui ont été d'ailleurs publiés de son vivant. Et deux siècles après, il y avait 5000 cantiques réunis en 8 volumes.
Qui a été en fait écrite par toute la tradition luthérienne qui a suivi Luther. Donc.
C'est cela, oui, notamment au XVIe-XVIIe siècle.
Pour revenir à Luther, est-ce qu'il y avait pour lui une fonction que devait jouer la musique ?
Oh, la musique pour lui était un élément très important. Je pense qu'il en a fait l'expérience dès son enfance où il a chanté à l'école où les enfants apprenaient le latin par les hymnes latines, le credo, le te deum, le pater. Et puis, en tant que moine, il a chanté les offices et en tant que prêtre, la liturgie. La musique pour lui avait une place tout à fait particulière. Je vais vous lire ce qu'il disait de la musique et du chant. « À l'homme seul, il a été donné d'unir la parole à la voix chantée, afin qu'il sache qu'il doit louer Dieu par le verbe et par la musique, plus précisément par une prédication sonore et des mots mêlés à une douce mélodie. »
Schau, wie gut ich dich sehe, schau.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour Bach ? On pourrait se demander, Bach est musicien, quelle est la place de la foi dans la musique de Bach ?
Alors, autant que Luther, il a écrit sur la musique qu'il aimait donc énormément, sur sa place de consolation et d'encouragement, autant nous n'avons presque rien de Bach sur sa foi. Cependant, on a retrouvé en 1934 ou 39,
oui, c'est récent.
Sa Bible, oui, en Amérique.
Ah bon, la Bible de Bach ?
La Bible de Bach, les trois volumes signés chacun de son nom. Et dans ces trois volumes, il y a un peu plus de 300 petites annotations, des pensées, des réflexions. Et les plus importantes, justement, concernent son ministère de musicien. Voilà ce qu'il a écrit en marge du premier livre des Chroniques, au chapitre 25. C'est l'institution des musiciens et des chantres.
Hein. Pour le temple de Salomon.
Voilà, pour le temple de Salomon. Et Bach note en marge. Ceci est le véritable fondement d'une musique d'église qui plaise à Dieu. C'est la merveilleuse preuve que la musique, à côté des autres institutions du culte, a été instituée par l'Esprit de Dieu à travers David.
Ça veut dire que pour lui, la musique était un signe de la présence de Dieu ?
La musique était certainement un signe de la présence de Dieu. Il a noté au deuxième livre des Chroniques, donc dans sa Bible, au chapitre 5, c'est le récit de la dédicace du temple, avec tous les nombreux musiciens, trompettistes et chantres qui interviennent et où la nuée recouvre le temple.
C'est-à-dire la présence de Dieu.
La présence de Dieu. Alors Bach note en marge, « Lors d'une musique recueillie, Dieu est toujours présent par sa grâce ».
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce soit Luther ou Jean-Sébastien Bach, ils sont tous les deux nés à Eisenach, et ils ont tous les deux été dans la même église.
Et dans la même école.
Et dans la même école.
Oui, c'est effectivement assez étonnant, mais entre les deux, il y a eu la réforme.
Voilà.
Alors, l'enfant Jean-Sébastien a été donc à la même école que Luther, mais lui, il a chanté les cantiques de la réforme. De même, à l'église Saint-Georges à Eisenach, eh bien là, il a aussi chanté, mais c'était les cantiques de la réforme.
Les chorales de Luther sont essentiellement fondées sur les Écritures.
Ça peut être comme un enseignement. Les cantiques sont souvent, bien sûr, aussi des prières, mais aussi en lien avec les temps liturgiques, bien sûr.
Un culte à l'époque de Bach n'était sûrement pas la même chose qu'à l'époque de Luther, j'imagine. Enfin, d'abord parce qu'à l'époque de Luther, c'était d'abord la messe.
Exactement. Alors, à l'époque de Bach, eh bien, le culte ordinaire, disons, le premier culte du matin à 7 heures, il durait 4 heures.
Mon Dieu! 4 heures
avec une prédication selon les moments, de 1 heure à 1h30.
Ça s'est changé.
C'était le culte principal. Et évidemment, une pièce maîtresse de ce culte, c'était la cantate.
Qui avait lieu entre la lecture biblique et la prédication.
C'est ça.
Donc elle avait évidemment un lien imminent. Les chorales de Jean-Sébastien Bach ont été, pour toute la jeunesse allemande, le fondement du chant, en fait, à l'église.
Je crois qu'on peut, vraiment dire cela. Ce qu'on appelle le Gesangbuch, c'est-à-dire le livre des cantiques et la Bible, c'était les deux piliers de la foi des protestants allemands. Et je pense que c'était des viatiques tout à fait précieux, par exemple, pour les résistants pendant la dernière guerre. Il y a le témoignage, entre autres, de Bonhoeffer et d'autres, qui disent combien le livre des cantiques les a soutenus dans leur épreuve.
Gilles Cantagrel, dans un de ses ouvrages, disait que le choral était le liquide amniotique du protestant allemand. Vous en seriez d'accord, Saint-Gabriel ?
Je serais d'accord, oui. Je pense que c'est assez juste. Ces chorales, ces cantiques, parfois ils étaient, comment est-ce qu'on dit, il y avait des rimes, donc on pouvait facilement les retenir, on les apprenait par cœur à l'école, au catéchisme, et moi-même je les ai appris, je ne les ai pas trop appréciés pendant ma jeunesse, mais un peu plus tard, et notamment à travers Bach, j'en ai découvert toute la profondeur et la beauté.
Merci, Sœur Gabriel.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.